toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Déjà 17h, on est jeudi, le jeudi c'est mon blabla mix préféré, chers auditeurs, et je crois que c'est le sien aussi, bien sûr, Monsieur Diop qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Diop.
Effectivement, bonjour tout le monde, bien sûr. Bah, le jeudi c'est mon blabla mix préféré parce que j'apprends toujours d'autres petites choses sur les chroniques d'instant d'histoire de Doc Monceau.
Qu'on retrouvera donc tout à l'heure et qui, si je ne m'abuse, ne nous parlera pas de maladies mortelles ce soir, Doc Mansour. Mais je suis sûr qu'il y aura des morts quand même, je n'ai aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver bien sûr de l'agenda, de la petite revue de presse amateur qui vient vous raconter toutes les bricoles qui se passent à Rouen et à Évreux et dans le coin, et Dieu sait qu'il y en a bien sûr. Et puis on retrouvera de la musique, on retrouvera d'ailleurs Unchasmable, hein, on a décidé de se la refaire avec l'ami Ousmane, les petits Unchasmable, parce que ça fait plaisir de découvrir des morceaux et surtout de découvrir que Shazam n'est pas infaillible, bien sûr. Et puis on va commencer par un morceau que je vous présenterai ensuite pour des raisons que vous comprendrez. On va s'écouter Lady Arlette avec Vals avec Elvis sur le mix des cultures.
Elvis m'attendra sur une plage du Haut-Doubs, puis nous irons fumer à l'ouest de Gibraltar. L'envol est délicat au grand pays des cieux. On a souvent bien fait de relire du Bachelard. Judy Garland m'offrira des jeans toniques, la glace dilue un peu nos souvenirs clochards. Nous ferons des claquettes au bord de la Baltique. Il faut savoir toujours honorer ses rancœurs. On sera tout au bord, quelque part du vide, sur la corde raide, des minutes, des barmètres. On n'aura même pas peur des dernières pluies d'orage, du seul vagabondage de nos cœurs. Un café anglais, une partition d'Ada bricolée de mots doux, et il me l'offrira comme des dés en coffret. Le temps est donc venu de parler aux cailloux. Marguerite Yourcenar jouera un dernier blues sur un dobro rouillé, la geste de Sandra, un diesel assoupi, rêvant d'être un Soyouz. Il faut savoir toujours honorer ses rancœurs. On sera tout au bord, à quelques pas du vide, sur la corde raide, des minutes, des barmètres. On aura même dernière pluie d'orage, du seul vagabondage de nos cœurs aviateurs. Histoire mécanique, le temps qui brûle au sud, du Prévert, du Char, et des muscles en or, Sister, Rosetta, Tarp, l'arsène de nos inquiétudes. On sera tout au bord, à quelques pas du vide, sur la corde raide, des minutes, des barmèdes. On aura un peu peur des dernières pluies d'orage, dernier vagabondage nos cœurs aviateurs.
Quelques instants nos émissions afin de procéder à la synchronisation de nos réseaux.
Vous aimez mieux les disques que la radio?
Tais-toi, je réfléchis.
Je vais mettre la radio.
Ça marche?
Oui.
99.
Ok.
Alors, pourquoi Lady Arlette avec Vals avec Elvis, mon cher Ousmane? Eh bien, certainement, tu te poses cette question. Parce que... Parce que Lady Arlette est, si je ne m'abuse, une artiste rouennaise, et surtout pour nous montrer que la vie a continué pendant ce confinement, puisque ce morceau, figure-toi, alors évidemment je ne me rends pas forcément compte de comment on fait un morceau classique quand on n'est pas obligé de rester chez soi, mais ce morceau était fait pendant le confinement, et chacun des, comment dire, des auteurs de ce morceau, c'est-à-dire depuis le compositeur, le parolier, la chanson, les artistes, les musiciens et autres, ont fait leur truc de leur côté, leur partie de leur côté, et ont tout mis ensemble, et voilà donc le résultat qu'on vient d'entendre, et je trouve que c'est une sorte de beau symbole de comment on peut rester unis et continuer à vivre en dépit de certaines conditions pas toujours faciles, du confinement notamment. Ceci étant, j'ai l'impression que la ville reprend peu à peu sa vie d'antan. Je vois les gens qui recommencent à boire de la bière un peu partout en ville. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que le moral est toujours là, chers amis rouennais. Et puis, il se passe bien d'autres choses à Rouen, et je ne sais pas si toi-même tu es beaucoup sorti, mon cher Ousmane, dernièrement, mais du côté du quartier Saint-Sbert, où je ne suis pas allé depuis un moment pour des raisons évidente, eh bien, il se passe des choses puisque apparemment à côté de l'église Saint-Sbert, eh bien, de curieux marquages au sol ont été dessinés, différents motifs très colorés donc qui effacent un peu, alors peut-être que c'est simplement mon point de vue, mais en trompe-l'œil, qui effacent la limite entre la route et la place, et apparemment donc c'est le but recherché, puisque si j'ai bien compris, ces marquages ont pour but de rappeler que l'endroit est une zone de rencontre, donc bien sûr où les passants ont tendance à rencontrer les voitures, et qu'il est fort possible donc que des voitures se retrouvent forcées de ralentir de façon un petit peu abrupte, et que donc il serait courtois de la part des véhicules de respecter la limitation de vitesse de 30 km/h qui s'impose ici, et que je trouve ne semble pas évidente, enfin en tant que piéton qui n'ai jamais conduit une voiture, ou à part sur un parking très vite en paniquant, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mon cher Ousmane, mais je trouve que cette espèce de route, je sais pas de laquelle je parle, qui est à côté de Saint-Sbert, à côté de l'église Saint-Sbert, on n'a pas du tout l'impression que c'est une zone de rencontre en fait.
Non, pourquoi?
Bah, justement, c'est pour ça que la métropole donc aurait dessiné ces petits marquages au sol. En tout cas, moi je l'ai vu, j'ai peur que les enfants aient envie de jouer avec les marquages, et que donc ça ait un rôle inverse, mais j'imagine que la métropole sait ce qu'elle fait. En tout cas, je vous invite, chers auditeurs, à aller regarder un petit peu. Déjà, ça vous fait une occasion de vous balader en respectant les gestes barrières, bien sûr, et puis venir vous faire votre propre avis. Autre chose, mauvaise nouvelle un petit peu, mais c'est un peu le feuilleton en ce moment qu'on aime bien retrouver. En tout cas, moi, j'aime bien vous donner des nouvelles de cette histoire, chers auditeurs. On vous en parlait extatique et enjoué récemment du fameux drive-in qui devait arriver à Rouen. Le projet s'appelait Steak Air, je crois, ou Steak Air, parce qu'il y avait un jeu de mots avec une parenthèse. Eh bien, j'espère que vous ne l'attendiez pas trop, chers auditeurs, puisque la première séance devait avoir lieu dès samedi, et donc elle n'aura pas lieu. Pourquoi n'aura-t-elle pas lieu, cher Damien? Eh bien, elle n'aura pas lieu parce que la mairie n'a pas donné son accord. Ça, je l'ai trouvé chez nos camarades de France 3, donc, qui nous révèlent que pourtant 600 places avaient déjà été réservées, mais que, si j'ai bien compris l'explication donnée, la réouverture des cinémas étant actuellement discutée au niveau du gouvernement, eh bien l'apparition d'un concurrent comme ce drive-in aurait été mal vue. Voilà, on peut donc imaginer que si les cinémas ne rouvrent pas, il y a peut-être moins que les drive-in voient le jour. En même temps, on espère quand même que les cinémas rouvrent vite. Bon, par contre, le premier film programmé, c'était Bohemian Rhapsody, donc, voilà, remettez-vous, c'est pas très grave de rater ça. Restez chez vous et écoutez-vous du Queen tranquillement, bien au chaud. Ça vaudra bien mieux que d'aller prendre des risques, chers auditeurs, bien sûr. Et puis, je me dépêche parce que je sais que Doc Mansour va bientôt nous rejoindre. Donc, je vais mettre un petit peu de musique en attendant pour le faire venir. On va s'écouter Georges Brassens avec les trompettes de la renommée sur le mix des cultures.
Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélopes passeront illico pour de fiefées salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive. Je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je, pour défrayer la chronique des scandales, battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement, comme un enfant de cœur porte un saint sacrement? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Une femme du monde, et qui souvent me laisse faire mes quatre voluptés dans ses quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie des parasites du plus bas étage qui soit. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en criant sur les toits et sur l'air des lampions? Madame la marquise m'a foutu des morpions. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente avec le père Duval, la calotte chantante, lui le catéchumène et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris aux genoux de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Avec qui, ventre bleu, faut-il donc que je couche pour faire parler un peu la déesse aux 100 bouches? Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare pour exciter le peuple et les folliculaires? Qui est-ce qui veut me prêter sa croupe populaire? Qui est-ce qui veut me laisser faire in naturalibus un petit peu d'alpinisme sur son mont de Vénus? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Sonnerait-elle plus fort ces divines trompettes si, comme tout un chacun, j'étais un peu tapette? Si je me déhanchais comme une demoiselle et prenais tout à coup des allures de gazelle, mais je ne sache pas, ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles, que ça confère à leur gloire une once de plus-value. Le crime pédérastique aujourd'hui ne paie plus. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Après ce tour d'horizon des mille et une recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes, j'aime mieux m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors dardard. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un Loire. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché.
Achetez le mix, achetez le mix des cultures 99.1.
Et nous sommes de retour donc avec Doc Mansour, votre moment historique du jeudi. Bonsoir Doc. Bonsoir. Oula, mais je n'allume pas le bon micro. Bonsoir Doc.
Bonsoir.
Pardon, c'est les mauvaises habitudes. Alors de quoi est-ce qu'on parle ce soir?
On va revenir à ce qu'on avait déjà commencé bien avant ce confinement. Donc on va revenir à ce Moyen-Orient mystérieux, comme on disait naguère.
Ah oui, je crois que c'était le Moyen-Orient dans les années 20, c'est ça un petit
voilà.
peu là. Oui, c'était vachement intéressant. En plus.
Donc là, on va refaire un rappel du fameux personnage dont on avait parlé, de Faisal, le roi d'Irak, qui allait devenir roi d'Irak. Donc, comme on sait, plus ou moins, on sait bien, il est en fait, non seulement il va devenir le héros de la révolte arabe, entre guillemets, mais aussi un fin négociateur et un fin politique. Donc, c'est envers 1908 quand les jeunes Turcs arrivent enfin au pouvoir, en 1908 exactement. Donc les jeunes Turcs, ce sont ce qu'on va appeler plus tard les Kémalistes, avec
D'accord.
Mustafa Kemal, qui prennent le pouvoir et en fait le sultanat ottoman est complètement balayé au final. Mais en fait, il faut savoir que dans l'armée ottomane de l'époque, et même avant, il y a une particularité, c'est que beaucoup ne sont pas, entre guillemets, Turcs ou véritablement ottomans dans le sens du vrai terme, c'est que 10% des officiers sont irakiens.
Dans l'armée turque.
Dans l'armée turque. Et d'autres, beaucoup d'autres sont soit syriens, libanais, vu que l'Empire ottoman, pour savoir, dans sa grandeur absolue, englobait quasiment la totalité du golfe persique en dehors de Oman et toute la ligne jusqu'à la Perse, donc l'Irak et tout le reste,
ouais.
Et jusqu'aux frontières marocaines.
D'accord, oui, ça fait quand même un sacré gros bébé quand même.
Ouais. Donc c'était, en plus on appelait ça le ventre mou parce qu'à l'époque c'était un peu en déliquescence. Entre deux, il y a la première guerre mondiale qui s'est enclenchée. Et justement, en novembre 14, lorsque le gouvernement ottoman rentre en guerre aux côtés des puissances du centre contre les alliés, Hussein, qui était envoie Faisal à Damas pour rencontrer les différents milieux nationalistes, parce que le nationalisme arabe est en train d'émerger. Poussé par les uns et les autres, en sachant qu'à l'époque, la France et l'Angleterre se bataillent un peu tout ce territoire-là, en se le fractionnant, comme on avait vu avec la conférence de San Remo et le fait que la Société des Nations qui va commencer à exister juste après se sortir de la guerre. Et en fait, lui, il va tenter des négociations. Pourtant, il est très fin, très intelligent. Il essaie de même négocier avec le gouvernement ottoman à Istanbul et... Il rentre en contact avec les sociétés plus ou moins secrètes nationalistes qui, elles, rêvent de révolte en réalité et d'indépendance. Mais en fait, comme il va devenir ce qu'il est, et en fait, il est conseillé par un homme que tout le monde connaît si vous avez vu le film Lawrence d'Arabie, donc Thomas Edward Lawrence de son vrai nom. Il est conseillé par cet homme qui, en fait, lui, joue un jeu assez trouble à l'époque.
C'est un agent britannique.
Oui, déjà. Mais en même temps, c'est un agent britannique qui a une petite revanche à prendre sur les Turcs.
Ah.
Si vous voulez, on fera son portrait, vous verrez, c'est intéressant par rapport à lui. Et en fait, lui, il joue un jeu double jeu, voire un triple jeu, un quadruple, parce qu'en fait, il a fait ce que je vous montrerai la semaine prochaine avec ses carnets qui ont été édités d'ailleurs, avec ses notes diplomatiques. Mmh. Il a négocié en parallèle avec Faisal l'attribution d'un État arabe, mais un État arabe qui irait de la Syrie jusqu'au sud de l'Arabie.
Ah oui, d'accord. Oui, bah,
mais il a négocié ça avec aussi le shérif de la Mecque, Hussein, mais aussi avec les Saouds, qui sont déjà là, déjà à l'époque, et qui essayent justement aussi de lorgner sur un état futur État arabe, et aussi avec les Palestiniens de l'époque, avec le moufti Hussein lui aussi. Donc voilà, donc là, il
signe des chèques en bois, quoi.
On va dire à peu près ça, ouais. Mmh. Et en fait, justement, le fait d'avoir utilisé Faisal, il est très malin parce qu'en fait, Faisal va orienter toute sa révolte sur le nord, jusque la grande plaine d'Aqaba. Il va même remonter jusqu'à Damas, rejoindre le général britannique Allenby qui les soutient. Mais Allenby et Lawrence sont en bisbille d'ailleurs. Mais il y a un autre personnage beaucoup plus intéressant qui est derrière, et celui-là, je le garde mystérieux pour l'instant.
D'accord.
Et en fait, avec l'appui des nationalistes arabes, ils vont former un espèce de gouvernement. Et en fait, Faisal, là on arrive à la fin de la guerre, et en fait Hussein va être envoyé à Paris pendant les fameuses négociations du traité de Versailles qui mettra à genoux l'Allemagne.
Il peut essayer d'obtenir le crédit du chèque qu'on lui a fait.
Plus ou moins, mais bon, je pense qu'il a très vite compris que ça n'allait pas se faire comme ça. Mais comme il est très fin et très cultivé, Il arrive à la tête de l'unique délégation arabe, en sachant qu'à l'époque ottomane, ce qu'on appelait l'Irak ou la Mésopotamie, était une province, on va dire, sous-développée.
D'accord.
Mais les Britanniques avaient vite compris que cette province pouvait avoir quelque chose de très intéressant. Parce qu'en fait, c'est trois grandes provinces, coupées en trois. Donc, Faisal arrive à cette fameuse conférence de la paix et il va utiliser les propos de Wilson, le président américain, que tout peuple doit avoir ses pleins droits. Donc lui, il ne vient pas quémander une espèce d'autorité au-dessus de lui. Non, non, lui, il veut une véritable indépendance.
C'est l'ère des nationalismes qui se poursuit quelque part.
Oui, les peuples doivent disposer d'eux-mêmes. Et en fait, lui, il propose même de créer une confédération d'États placée sous la houlette de toute la famille hachémite. C'est-à-dire aujourd'hui, vu que le roi d'Irak n'existe plus, de Syrie non plus, le roi de Jordanie.
D'accord,
pour signifier la famille. Et en fait, pour lui, ce serait rassembler une nation arabe allant de la frontière irakienne jusqu'à Alexandrette, tout le nord.
Donc Alexandrette, c'est où que je me rends compte ?
En Syrie.
D'accord, ok. Ouais.
Et en fait, ils vont même demander, en fait, cette ambition régionaliste, en fait, ça n'arrange pas ni les Français ni les Anglais. Parce qu'en fait, comme il va y avoir le mandat français et anglais qui va partager tout le Moyen-Orient en partie, il faut savoir une chose, c'est que pour signer un accord avec un pays, il faut un gouvernement, certes, fort pour appliquer ce traité, mais pas trop fort pour pouvoir s'y opposer.
Oui.
Mais il ne faut pas non plus un gouvernement trop faible qui signerait un accord qu'il ne pourrait pas tenir et qui serait enclin à avoir des révoltes et des révolutions et des coups d'État permanents.
Ce genre de petite manœuvre est très délicate, finalement.
Plus que délicate, parce que là, c'est plus que le fil du rasoir, c'est très très fin avec lequel il va falloir jouer finement. Alors Faisal, lui, fait rapidement lâcher les Britanniques sur certains aspects. Donc, en fait, ce ne sera pas une colonie, mais juste non plus un protectorat, mais un mandat, avec le statut des nations, de la Société des Nations à l'époque. Et en fait, pour lui, il n'en aura que les promesses qui vont l'engager pendant la guerre.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on vous a soutenu, alors qu'il faut savoir une chose. Faisal, son père et son clan, sont germanophiles et se sont mis contre l'Allemagne.
D'accord, ouais.
Ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que là, on voit bien que la politique, la diplomatie, l'économie, c'est des jeux très fins.
En même temps, soutenir l'Allemagne n'était pas vraiment dans leur intérêt, puisque l'Allemagne était alliée avec les Ottomans.
Non. Donc ça, vous pouvez trouver ça, ça traîne un peu sur Internet. Il y a quelques livres qui ont été écrits sur les correspondances entre Hussein et MacMahon.
Germanophile jusqu'à une certaine limite, en fait.
Oui, voilà. Bah, quand c'est dans son propre intérêt, c'est autre chose.
Voilà.
Et en fait, pendant son séjour européen, en fait, il a amené à rencontrer Weizmann à Londres. Chaim Weizmann, il faut savoir que c'est un des leaders du mouvement sioniste.
D'accord.
À l'époque. Parce que le mouvement sioniste n'est pas né que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, il aura des entrevues et même encouragé. Parce que la Grande-Bretagne, justement, elle voit qu'en fait, c'est en train de bouillonner. Et en fait, il va même aller plus loin. Il va même aller chercher l'appui des États-Unis et de la forte communauté juive américaine.
D'accord.
Et en fait... Il se dit sensible à leur désir d'avoir un État ou d'avoir une entité. Mais lui, il veut tout limiter quand même. Parce qu'il dit que les revendications, c'est moyen. Mais en même temps, les Anglais, ça les arrange. Parce que comme ça, ce qu'il est en train de faire est en train de mettre une barrière, de faire barrage aux ambitions françaises au Moyen-Orient.
D'accord.
J'ai dit, c'est très fin. C'est vrai que c'est complexe, mais en même temps, c'est très fin.
Ah, les Anglais.
Donc en fait, le 3 janvier 1919, il va quand même avoir un accord plus ou moins flou. En fait, on est encore dans le brouillard. Donc, il essaie de satisfaire le traité de Versailles. Il va même collaborer avec les premiers colons sionistes qui vont arriver dans la Palestine,
ouais,
à la réalisation en fait, de leur aspiration nationaliste. Et en fait, au fur et à mesure, il se rend compte que il a quand même des oppositions lui aussi. Mais comme il est très fin, il se rend compte aussi d'une chose, c'est que lui, son grand désir, c'est de créer ce nationalisme arabe au-delà de toute frontière et de toute barrière, c'est-à-dire ethnique et religieuse, c'est-à-dire confessionnelle. Le problème, c'est qu'il a en face des Kurdes, même s'ils sont sunnites pour la majorité,
oui,
ils sont Kurdes. Il y a les Arabes, qui sont tantôt chiites, tantôt sunnites, et d'autres qui sont yézidites, donc parfois considérés comme des apostats par d'autres. Les sunnites et les chiites ne se supportent pas. Mais le problème des yézidites, eux, ils ont un autre ennemi, c'est les assyro-chaldéens qui sont des arabes chrétiens.
D'accord.
Qui eux-mêmes avaient collaboré contre la révolte arabe.
Pas et, facile de rassembler tout ce monde.
Et de l'autre côté, il y a les Perses.
Ouais.
Qui à l'époque s'appelle encore la Perse et pas encore, s'appelle pas encore l'Iran. Donc lui, il doit essayer de faire tout ça. Et lui, il va miser, comme j'avais dit la dernière fois, mais moi je vais le rappeler, tout sur l'éducation. Pour essayer d'effacer ces fameuses frontières.
Ça ne marchera pas, ça ne sera pas assez.
Tant que lui, il est là, ça fonctionnera.
D'accord.
Et en fait, il va quand même réussir, en même temps qu'il pense à tout ça, il rencontre Georges Clemenceau. Et le 6 janvier 1920, il va accepter de reconnaître un mandat français sur le Liban contre la reconnaissance par le gouvernement français d'une Syrie indépendante.
D'accord, mais là, du coup, il tourne un petit peu le dos à ses copains britanniques.
Oui, mais les Britanniques, ça les arrange aussi. Mais en même temps, les Français ont pris modèle sur les Anglais. On va dire que les Anglais avaient très bien négocié leur affaire. Et en fait, c'est là où, justement, il est très fin. Il va même privilégier, principalement le domaine économique et culturel, et il va faire en sorte de faire exactement ce que les Français ont fait, c'est que les Anglais avaient un point de à l'époque, ils avaient du retard, les Anglais.
D'accord.
Il faut savoir qu'à l'époque, les missions françaises, il y en a beaucoup, donc on parle plus facilement français qu'anglais.
Ok.
Les Anglais vont s'y mettre un peu en retard par rapport à ça. Et comme je vous avais dit, c'est la même année, le 25 avril, qu'il y a cette fameuse conférence de San Remo où la Société des Nations passe, outre les réclamations de Faisal, malheureusement pour lui, et institue officiellement le régime du mandat. Donc lui, il ne peut plus rien faire et il va du moins plus ou moins s'y plier. Donc pour l'instant, il est en Syrie. Et d'un seul coup, bon, on va le renvoyer en Irak. Hein. Parce qu'en Syrie, ça ne l'arrange pas. Il préfère peut-être même traiter avec les Anglais qu'avec les Français. Parce que la Syrie, à l'époque, est un mandat français.
D'accord.
Donc quand il rentre, à l'époque, quand il rentre à Damas, il est un peu déçu. Bon, il se retrouve en Irak. Et en fait, il est finalement rappelé par Winston Churchill.
Ah.
Qui, à l'époque, est chargé du ministère des colonies.
D'accord, ok.
Il n'était pas encore Premier ministre à l'époque. Et en fait, il veut le faire. Il dit, voilà, nous, on t'offre le trône d'Irak. Et en fait, justement, ça l'arrange aussi, parce que comme ça, il retrouve une grande stature. Et cette fois-ci, tout se décide à la conférence du Caire en 1901, mettre en place un chef arabe afin de légitimer non seulement son mandat, et les Anglais vont être plus fins que les Français, et c'est pour ça que là, les Français vont observer les Anglais, c'est que c'est un mandat de partenariat, cette fois-ci.
En fait, ils essaient d'avoir une figure légitime de leur côté dans le secteur, voilà, pour pouvoir légitimer leur présence, en fait.
Ouais. Donc là, il devient, en fait, le 23 août 1921, il devient véritablement roi, même si la Grande-Bretagne garde un contrôle sur les décisions les plus importantes en interne du royaume et du pays, en fait.
Mais concrètement, ça reste un peu un lot de consolation pour, ouais, pour ce monsieur Faisal. Est-ce que le roi Faisal n'a pas gardé une certaine rancœur, voire certaines ambitions ?
Et si, mais justement, c'est là que ça va être plus intéressant, c'est qu'en fait, il est obligé de gérer tout le territoire qui est divisé en trois grandes provinces avec Sir Percy Cox, qui était un agent secret à la base et qui deviendra quelqu'un de plus important
avec
après.
Avec un nom pareil déjà.
Et en fait, il va faire plusieurs fois. En fait, il va se servir des Anglais pour consolider son pouvoir. Mais lui, de son côté, il n'est pas si faible que ça. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'attirer les bonnes grâces des autorités religieuses et pas que, parce qu'il lui faut un contre-pouvoir, des autorités religieuses chiites,
ouais,
et aussi de la bourgeoisie issue de ce parti confessionnel principalement, parce qu'en fait, ils ont tous un ennemi commun, le communisme.
Ah, mais c'est un facteur d'unité partout dans le monde, le communisme. Il crée plein d'amitiés.
C'est un nationaliste. En fait, lui, c'est un nationaliste arabe, mais en même temps, le socialisme, c'est pas que ça l'attire, mais il joue avec. En fait, il a compris comment il fallait jouer avec les Anglais et les Français, et même avec les Américains. C'est que si vous ne me laissez pas un peu de l'Est, je vais peut-être aller voir du côté de l'Est ce qui se passe.
Finalement, ça, c'est une technique qui sera souvent utilisée pendant encore très très longtemps. Là.
Oui, mais justement, lui, on ne va pas dire que c'est le pionnier, mais lui, la façon dont il va l'utiliser, il va être très très fin. Et en fait, tout au long de son règne, il va plaider pour une indépendance qu'il arrivera à avoir au fur et à mesure du temps.
D'accord.
Et en fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est sortir ce qu'il veut, lui, on va appeler le royaume irakien à l'époque, de la pauvreté et de l'illettrisme. Et c'est ce qu'il fait, parce qu'il a tout misé sur l'éducation. Il a tellement tout misé sur l'éducation que il se retrouve face à un problème, c'est qu'il n'a pas assez de professeurs, d'enseignants et de directeurs d'école.
Alors comment faire ?
bah, là, il va faire appel aux Libanais et aux Palestiniens principalement.
Okay.
Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un dicton qui disait « Les Égyptiens écrivent les livres, les Libanais les éditent et les Irakiens les lisent. »
D'accord.
Voilà, okay. C'était pour montrer sa politique qu'il voulait, à laquelle il voulait. C'est toujours un peu vrai.
Ok.
Et en fait, tout ce qui va se passer au niveau des clivages ethniques, tout ça, il arrive plus ou moins à les effacer pendant son règne. Donc, il fait monter en pression toutes les élites économiques, mm-hmm. de toutes les confessions qui existent et de toutes les ethnies. Et en même temps, il abaisse le pouvoir des religieux.
Okay.
C'est là où on pourrait quasiment dire que c'est un laïc dans un certain sens.
Alors là, je vais me tenter une comparaison un peu aventureuse, mais est-ce qu'on peut dire que ça ressemble un peu à ce que fera Nasser en Égypte ?
Voilà,
est-ce que, ouais.
avec un peu plus de brutalité.
Okay.
Et en fait, c'est là que de nombreuses critiques de la part des Britanniques et des nationalistes commencent à dire « Oui, mais il est en train de favoriser une certaine classe, une certaine élite. » Mais ça ne fonctionne pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui est là qui est intéressant, c'est qu'à force de négocier, eh ben, il arrive à avoir l'indépendance.
Okay.
Et le 30 mai 1932, l'Irak devient un État indépendant et rentre à la SDN.
D'accord, donc Société des Nations, bien joué, roi Faisal.
Ouais. La même année, hein, le 3 octobre exactement. Et c'est la première fois qu'un État arabe devient membre de cette organisation. Mais la Grande-Bretagne gardera, c'est justement ça qui sont très fins aussi, nos chers amis anglais. Les Anglais assureront le contrôle de certaines bases militaires et un certain contrôle de certaines ressources du pays.
Oui, de toute façon, une règle de base à garder quand on étudie l'histoire, je crois, je parle sur le contrôle de documents sources, c'est que les Anglais gagnent toujours à la fin, quoi qu'il arrive.
Oui, mais alors c'est là où c'est particulier chez les Anglais, parce que si on fouille un peu les archives anglaises dans la bibliothèque royale et nationale anglaise, c'est qu'il y a énormément d'écrits sur l'ingratitude de ces peuples qu'ils ont sauvés de la misère.
Oui, c'est très britannique, finalement, comme façon de regarder les choses.
Oui, alors, il y a des milliers de pages sur l'ingratitude de ces peuples qu'on a essayé d'aider. Donc, Faisal, lui, en fait, faut savoir que dès début 1933, arrive Adolf Hitler au pouvoir.
Oui.
Il est enfin nommé chancelier, ce qu'il voulait. Et, mais à la même époque, en février, mars, avril, jusqu'à mai à peu près 1933, les Anglais jouent un espèce de jeu assez malicieux avec Faisal en disant « Oui, mais les minorités religieuses, il faut les préserver, il faut les protéger. » Et lui leur renvoie gentiment « Et vous, que faites-vous pour les minorités juives qui commencent à être persécutées en Allemagne ?»
D'ailleurs, est-ce qu'on note un accroissement de l'immigration juive dans la région, du coup ?
Oui, tout doucement. Voilà. Et en plus, alors, l'immigration à l'époque est très particulière. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est qu'à l'époque, le mouvement sioniste, en partie, attention, je n'ai pas dit tous, une minorité, était tout à fait d'accord avec certaines dispositions que le Parti National Socialiste en Allemagne avait pris. Par exemple, l'interdiction des mariages mixtes. Oui. Certains rabbins du mouvement sioniste, mais très peu y étaient, mais d'autres y étaient, étaient totalement d'accord parce que ça effacerait en fait la judaïté ou, entre guillemets, que le judaïsme pourrait disparaître au fur et à mesure des mixages de population.
Oui.
Donc, je vous ai dit, c'était une frange assez marginale, mais qui existait. Mais les Anglais, pour pouvoir aller sur le territoire palestinien qui est sous mandat anglais, il y avait deux types d'immigration. L'immigration économique et l'immigration ouvrière. En fait, il fallait avoir sur place des gens qui arrivaient avec c'était 1000 livres sterling à peu près, mais ça ne représente pas les 1000 euros aujourd'hui, ça représente beaucoup plus. Il fallait arriver là-bas avec de l'argent pour pouvoir embaucher des gens qui arriveraient.
D'accord.
Donc, ce qui fait que plus il y avait de gens qui arrivaient, qui avaient un capital à investir, plus ils pouvaient émettre des visas travailleurs.
D'accord.
Donc, c'était une espèce de système un peu scabreux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie du mouvement sioniste allemand avait réussi à négocier avec le parti national-socialiste d'avoir des capitaux pour partir.
D'accord, oui, parce que j'imagine que ça devait arranger un certain nombre de nazis aussi de voir les juifs quitter le pays.
Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est un jeu de dupes parce qu'on sait comment ça a fini. Mais c'est un jeu de dupes parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, les Allemands avaient très bien négocié. C'est-à-dire, oui, d'accord, on vous donne les capitaux pour négocier, mais vous allez vendre nos produits made in Germany.
Oui, c'est culotté comme idée quand même. On imagine assez mal.
Alors ça, c'est dans les notes diplomatiques. Hein. Très bien,
d'accord.
C'est des livres assez épais, mais c'est intéressant de lire que tout ça, c'est notes diplomatiques, notes secrètes et autres. Et c'est impressionnant parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout est compliqué. Il y a plein de choses qui se passent. Même les ennemis se parlent et négocient entre eux. Donc Faisal profitera de ce tout ça pour lui dire « Non mais occupez-vous de vos minorités en Europe, je m'occupe des miennes ici-bas. » Bon, il n'aura pas trop le temps de s'en occuper parce que suite à des problèmes de santé, parce que monsieur fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour, ce qui peut être très mauvais pour la santé, il mourra le 7 septembre 1933 à la suite d'une crise cardiaque en Suisse, à Berne exactement. Et c'est son fils Ghazi, lui, qui va lui succéder alors à la tête de l'Irak. Et en fait, son enterrement va devenir un exemple. Parce qu'en fait, quand il sera enterré, il y aura des millions de personnes qui vont venir spontanément à son enterrement, à contrario de ses successeurs où tout sera organisé. Et c'est là que les Anglais se sont rendus compte à quel point cet homme qui était malin, malicieux et très intelligent, et au niveau diplomatique, qui était très patient, parce qu'il a été patient pour avoir tout ça, il était extrêmement plébiscité par les peuples arabes.
Ouais. Là, ça perd un... L'Angleterre perd un allié précieux, la Grande-Bretagne perd un allié précieux quelque part dans le coin. Sinon, un allié, au moins, un atout.
Oui, et en fait, je ne dis pas qu'il n'a pas fait des coups tordus, il en a fait quelques-uns, éliminé quelques concurrents ou obstacles, mais on peut tirer une chose sur sa vie, c'est qu'à l'époque, par rapport à d'autres, il a été beaucoup plus lucide, tout en étant humble par rapport à sa posture.
Ouais.
C'était pas quelqu'un qui se montrait beaucoup, même si vous avez vu la photo avec son costume blanc, et à côté de lui, Edward Lorenz, justement. Et en fait, lui, il a toujours essayé de défendre ce qu'on va appeler le panarabisme absolu. Lui, il voulait vraiment un grand royaume arabe au Moyen-Orient, ce que d'autres aussi voulaient en même temps que lui. Et la semaine prochaine, justement, je vais vous expliquer plus ou moins comment Lawrence d'Arabie a joué ce jeu assez perturbant, où lui-même s'est perdu au fur et à mesure du temps, se voyant lui-même se faire avoir par un de ses collègues, dont j'ai gardé le nom mystérieux pour l'instant.
Très bien, et eh bien la semaine prochaine, chers auditeurs, vous apprendrez qui est ce mystérieux traître britannique. D'ici là, merci Doc Mansour de nous apprendre cette période finalement assez peu connue d'histoire, en tout cas par moi. Et puis on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant donc, on s'écoute Unchasmable comme promis, sans plus de présentation bien sûr.
Bien être une machine.
Unchasmable, la rubrique qui revient sur des morceaux non référencés sur Shazam. L'objectif est d'évoquer des titres qui ne sont pas encore passés dans les méandres du numérique. Et cette semaine, on évoque Douce Agonie de Benzen. Duo composé de Khalil Asko en provenance de la ville de Blanc-Mesnil, les deux rappeurs se sont d'abord fait connaître à travers des apparitions sur des projets tels que l'album de Triptych, Micro, Phonorama ou encore le très très bon maxi du rappeur Féroce. Le groupe s'inscrit clairement dans cette scène rap du début des années 2000 qu'on a très rapidement appelée la scène alternative, avec comme modèle des artistes qui étaient issus des labels tels que Ninja Tune ou encore Stones Throw. D'ailleurs, sur les deux maxis que Benzen a sortis, ils ont invité des artistes qui étaient issus de ces mêmes labels. Ils sont allés chercher des collaborations internationales, quitte à faire des crédits ou encore à provoquer des interdits bancaires. Le titre du jour, Douce Agonie, figure quant à lui sur la face B du maxi Rage et Fury, et la production est signée Astronaute. Nous avions eu le plaisir de les inviter dans Edutainment à l'époque, et Astronaute, c'était limite le producteur inconnu du projet. Quand on voit aujourd'hui en 2019 le parcours du beatmaker orléanais, on ne peut être qu'admiratif, puisque depuis il a fourni des productions pour des artistes tels que J-Rock ou encore Kendrick Lamar. Douce Agonie, c'est le titre du jour qui n'est pas référencé sur Shazam, mais qui l'est dans Edutainment.
Les années passent comme des trains dans une gare fantôme. Je suis qu'un voyageur anonyme meurtri par trop d'hématomes qui pose un regard attendri sur Smoom. C'est fou ce gosse à 10 piges, il a déjà l'œil d'un fou. Hors contrôle, la société distribue les rôles. Pour exister, faut tuer pour avoir la couronne et le trône. Folie guerrière dont on connaît l'arôme. L'ignorance constitue le sang et l'eau qui coule dans nos zones. La solitude et l'ennui, voilà la cause. L'obsession de la maille trouve sa source et bousille nos neurones. Comme ces cônes qu'on fume le jour entier dans nos halls. Incapable de se projeter, la tyrannie du présent si dans nos pôles.
Parce que nos rêves se brisent là où la ville est limite. Nos frères broient du noir et bravent les lois à chaque fois que l'espoir s'élimine. Tandis qu'on remplit page après page, les gosses rêvent de braquage, d'avoir du cash et des tasses, de niquer l'état et ses taxes. Nos vies c'est quoi, le shit et la rage, ou exciter la page. Des faits divers, quand c'est l'hiver, on aime squatter nos cages. Mais on connaît aussi le poids des larmes, poids des larmes. La pensée c'est parole, la parole c'est force, et devient acte et vient le choix des armes. Des fois j'ai mal et j'ai envie de le crier au monde. Quand les barrages et les alarmes nous forcent à sévir dans l'ombre. Les riches nous imitent alors qu'on milite pour avoir les mêmes droits. Nos mères nous subissent et nourrissent l'espoir d'avoir les mêmes toits. Je prends les connards pour cible, les adages pour rime. Je prends mon courage comme hymne, les cartes sauvages qui friment. Explose les sondages et les ombrages qui me fliquent. J'éclate les clivages qui me privent des images du bonheur qui fuit. Mon sillage est juif.
On a tous ces mêmes envies, ces rêves qui marquent nos vies. Ces chaînes dans nos esprits qui nous freinent, nous divisent. Même si le choix est factice, c'est pas les idées qui mentent. Tu sais, c'est juste l'habitude qui nous tue d'une mort lente. On a tous ces mêmes envies, ces rêves qui marquent nos vies. Ces chaînes dans nos esprits qui nous freinent, nous divisent. Même si le choix est factice, c'est pas les idées qui mentent. Tu sais, c'est juste l'habitude qui nous tue d'une mort lente.
Le ciel scarfe sur les bancs et les halls. La parano touche le karma des jeunes qui se la jouent. Super-héros des pauvres quand les légendes enrôlent les mioches dans la drogue et l'alcool. L'état nous leurre quand ils réforment l'ordre, récolte l'or et la mort. Les femmes manifestent contre l'homme brutal et animal. Et la rue parle de ces dames qui partent dans le drame et les larmes. À croire que le respect entre les sexes n'existe plus. J'ai espoir de voir notre espèce vivre sans stress et vice de rue. C'est juste que chaque jour le parcours se corse. On est citoyen du quotidien, mon sexe, les verrous sous force. Et c'est même si l'espoir de croire nous force à rester gosses. Rares sont ceux qui connaissent le trottoir, le marché noir, la rue et ses forces.
Les armes dehors résonnent comme de douces mélodies. Là où je vis signifie être fort pour se battre contre l'oubli. Complot politique ou utopie, des lois se forment qui à jamais nous incarcèrent comme des momies. Prisonniers sans chaîne, on obéit. On se heurte aux angles, justice de bande, de clans, de gang, toujours ce même sang qui nous lie. Aujourd'hui c'est prendre ce qui se présente, que de rien avoir. Mes écrits naissent comme les larmes derrière les vides d'un parloir. Ma couleur nous puni. Comment se sentir utile ici quand on évalue une personne par son économie. Des gens meurent, juste un nom pour certains, plus rien compte. Ce monde est immonde et glisse vers une douce agonie. On a tous ces mêmes envies, ces rêves qui marquent nos vies. Ces chaînes dans nos esprits qui nous freinent, nous divisent. Même si le choix est factice, c'est pas les idées qui mentent. Tu sais, c'est juste l'habitude qui nous tue d'une mort lente. On a tous ces mêmes envies, ces rêves qui marquent nos vies. Ces chaînes dans nos esprits qui nous freinent, nous divisent. Même si le choix est factice, c'est pas les idées qui mentent. Tu sais, c'est juste l'habitude qui nous tue d'une mort lente.
À croire qu'il faut laisser faire, à croire qu'il faut juste regarder. Tout simplement pour ne pas briser, tout simplement pour ne pas briser cette courbe. On croit qu'on a les yeux ouverts, mais c'est les yeux fermés qu'on avance. On croit qu'on a les yeux ouverts, mais c'est les yeux fermés qu'on avance. Et où ça va nous mener? Dès le plus jeune âge. Machinalement, en regardant d'autres avancer, d'autres tomber, sans finalement prendre position. C'est peut-être ça l'habitude, c'est peut-être ça notre putain d'ennemi. Cet ennemi silencieux. Et lui, il est sûr de gagner. On est juste là. Sans savoir pourquoi ni comment. C'est lui ce putain d'ennemi à battre. Benzen. Kalileasco. Le son c'est l'astronaute.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Ousmane voulait vous parler, chers auditeurs. Il a regardé un petit peu ce qui se passait dans l'actu, si j'ai bien compris. Rebonsoir, cher Ousmane.
Rebonsoir. Non, mais j'ai fouetté un peu quelques journaux, donc voilà, ici à côté. Et donc, sur l'enquête de Lubrizol, là, ce qui paraît, donc l'enquête avance et ce qu'ils disent Tendance Ouest et aussi l'information, ils l'ont chopé chez leurs confrères du Monde. Donc, l'enquête avance, Lubrizol, et donc, qu'est-ce qu'ils disent cette enquête après 8 mois donc, la vague d'incendie qui a ravagé Lubrizol à Rouen, donc l'origine pourrait être, non, pourrait avoir été déclenchée, non, pourrait avoir été identifiée par les enquêteurs, donc voilà, d'après le dossier d'instruction que Le Monde donc a pu se procurer. Et donc c'est le feu serait parti de Normandie Logistique à cause de deux radiateurs électriques qui seraient à côté dans les vestiaires, donc voilà, qui n'est pas loin de la zone du départ de feu. Donc voilà, selon l'enquête, ça pourrait être ça. Donc, mais l'enquête est encore en cours et c'est pas encore fini. Donc à ce que j'ai entendu, donc la Normandie Logistique a apporté plainte aussi. Donc
oui, il me semble. Ouais,
donc voilà, ça reste à prouver. Ça va être une espèce de bagarre entre Lubrizol et Normandie Logistique. Ouais. On saura pas, peut-être pas la vérité sur ce truc-là.
La bagarre continue. Ceci, je sais pas ce que t'en penses, mais si c'est vraiment ça, c'est quand même vachement couillon, non ? À quel moment tu as des radiateurs électriques défectueux juste à côté de Lubrizol ? Je ne comprends pas. Et surtout, à quel moment est-ce que ça n'a alarmé aucune autorité ? Qu'est-ce qui se passe ?
Par la routine, tout simplement, et tout simplement par le manque de contrôle aussi de certaines responsabilités responsables, mais ça pourrait être ça. Donc voilà, je voulais vous parler de cette enquête qui avance. Donc allez jeter un coup d'œil sur Tendance Ouest et vous trouverez l'article. Et voilà, ça pourrait être intéressant pour les petits curieux qui cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe ici dans l'agglomération. Et puis voilà, on vous a parlé de violence conjugale pendant le confinement et ça continue, mais ça va bientôt bien sûr commencer avant ça. Et donc voilà, je voulais juste vous raconter cette histoire qui m'a juste tapé à l'œil. Donc c'est un jeune homme, un monsieur, qui était interdit de s'approcher de sa copine parce que justement, donc il n'arrêtait pas de lui taper dessus. Et comme il était sans domicile et sans famille, donc sans aide, et il savait pas où aller. Donc en soir, il savait pas où aller, il était ivre. Donc finalement, il s'est senti obligé de retourner là-bas dormir dans sa cave. D'une façon ou d'une autre, il était arrivé à lui taper dessus, lui mettre des coups de tournevis. Et puis il y a 3 témoins qui l'ont aperçu, donc ils ont appelé la police. Donc voilà, je ne comprends pas comment des fois on peut être assez, comment dire ça, assez à côté.
Ouais, bah après, peut-être que poussé par la nécessité, il a pris une décision pas forcément évidente. En tout cas, j'imagine qu'on peut se réjouir que cette histoire finisse relativement bien. Je veux dire, là, c'est une actu presque drôle quand elle aurait pu très mal finir finalement.
Bien sûr, donc voilà, il est cop d'un an de prison et puis voilà, il y a plein de choses. Donc ça, tout ça, c'est sur Tendance Ouest. Donc voilà, n'hésitez pas à les feuilleter. Il y a aussi quelques infos que vous pouvez trouver dedans. Voilà pour le petit coup d'œil que j'ai jeté pour vous.
Merci bien, monsieur Ousmane. Écoute, on s'écoute un petit morceau de musique tranquillement en regardant le soleil haut dans le ciel avant de retrouver nos amis les auditeurs. On va s'écouter Aretha Franklin avec Drown in My Own Tears sur le mix des cultures.
When I began to
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Aretha Franklin, inimitable bien sûr. Mon cher Ousmane, je crois qu'on en a un petit peu parlé dans cette émission. Bien sûr, tu le sais, en ce moment nous sommes maudits, bien sûr, depuis la fameuse chronique du vendredi 13 de Marie, hein, cette histoire dure. Je vous l'avais prédit, personne à cette antenne, aucun auditeur fidèle, pardon, ne peut dire que je n'avais pas dit que si Marie faisait cette chronique, ça allait foutre le bordel dans le monde. Eh bien, je n'imaginais pas avoir raison à ce point. Alors, on en a parlé très rapidement, tu le sais, maintenant, il y a même des frelons géants qui attaquent les gens, mon cher Ousmane, tu en avais entendu parler ?
Donc, j'espère que cette fois, tu nous prédiques des nouvelles positives, parce que des frelons géants, je savais pas, ça se passe où ?
Je dirais, ne paniquons pas trop fort. D'abord parce que, vraisemblablement, pour l'instant, les États-Unis et l'Asie sont les seuls à avoir des problèmes avec les frelons géants, donc tout va bien. Ensuite, parce que vraisemblablement, il ne tue pas plus de quelques personnes par an. Donc, nos chances sont relativement moindres. Ceci étant, j'ai trouvé une vidéo sur Internet, mon cher Ousmane, assez effrayante. Un frelon, un seul frelon, tue une souris. Et je sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça assez flippant, ces histoires de frelons. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter cette année, du coup ? À ton avis, c'est quoi la suite après les frelons géants tueurs ?
Après les frelons, ça serait comme l'épisode de South Park avec les... Comment il dit ça, les rêves lapins, comment ça s'appelle ces monstres-là, là, l'épisode.
Les cochons d'Inde géants,
les cochons
ça, oui.
D'Inde géants, ça sera à peu près comme celui-là. Je pense qu'on va se retrouver avec des lapins qui dépassent nos immeubles.
Ce serait l'apocalypse la plus mignonne du monde, effectivement, l'attaque des lapins. Hein, moi, je sais déjà qui mènerait l'attaque, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans le privé, mais je suis moi-même détenteur d'un jeune terroriste de cet acabit. Bon, écoute, mon cher Ousmane, on verra bien. Peut-être que ce qui nous manque, c'est des groupes de musique péruvienne qui jouent dans les rues. Peut-être bien, en tout cas, vous voyez, allez voir South Park. On a un petit peu de temps pour faire des petits conseils. Regardez South Park, c'est vachement bien. South Park, c'est très vulgaire, bien sûr, mais ça peut être très sympathique.
Mon cher Ousmane. Ça fait pas de mal.
Donc. Oui, effectivement. Alors, oui, alors. Peut-être que pour les enfants, ce n'est pas le top du top, effectivement. Oui, effectivement. Est-ce que tu connais John Peet, Ousmane, sans aucune transition ?
John Peet, bien sûr, c'est un ancien. Ici, on l'appelle l'ancien John. John, c'est un habitant des Hauts-de-Rouen.
Eh bien, c'est un habitant des Hauts-de-Rouen, donc qui a du succès. C'est un rappeur, si je ne m'abuse, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Et que donc, apparemment, nous aurions le plaisir de recevoir demain dans La Vie Continue, donc l'émission retransmise en live sur Facebook, en vidéo, chers auditeurs. Vous allez pouvoir voir mon visage décontenancé qui essaie d'utiliser des nouvelles technologies pendant que mes chers collègues, que je salue, Monsieur Finovitch, notamment Monsieur Romain et tous nos amis services civiques, c'est-à-dire maintenant Madame Lady, donc seront en train d'interviewer Monsieur John Peet pour vous tenir au courant de son actu et qu'il vous raconte ses aventures et mes aventures de déconfinement. On retrouvera également, bien sûr, vous le savez, votre agenda, votre petite actu, évidemment. Et puis la petite chronique jeux vidéo qui demain parlera donc toujours du jeu gratuit de Epic Games Store. Ce sera donc les jeux Borderlands. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose à Monsieur Diop, les jeux Borderlands.
Non, pas spécialement. Chacun son domaine, donc voilà, je laisse ça à Lady.
Exactement, voilà, Lady va s'en occuper, bien sûr. Et puis, que vous dire de plus, chers auditeurs, profitez de la chaleur extérieure dans le respect des gestes barrières. Dites-vous bien que toute cette histoire sera bientôt réglée. Et puis, peut-être pensez à chercher sur Internet comment faire pour transformer les masques chirurgicaux, les masques FFP2 en masques anti-frelons, juste au cas où. Et puis, acheter peut-être des pièges à lapins et de quoi faire du civet, puisque Ousmane nous prédit l'apocalypse lapinique pour la suite de cette année. On ne sait pas encore, hein, les paris sont bien sûr ouverts pour la suite des catastrophes. Et puis pour la suite sur Radio HDR, on vous laisse avec de l'excellente musique. Je ne vous cache pas que je n'ai pas la grille des programmes sous les yeux et je suis bien incapable de retenir ce qui va suivre ensuite. En attendant, bon, moi, je vous laisse avec notre générique. Ah, monsieur Dub, vous voulez rajouter un petit quelque chose ?
Non, c'est bon, je voulais rien ajouter.
J'aime bien quand on a un petit peu de temps comme ça, on fait l'émission pour déconner un petit peu. Bon, chers auditeurs, on se dit à demain, d'accord ? Fidèle au poste, nous on sera là, Monsieur Diop sera là, on sera même là lundi bien sûr avec Monsieur Diop puisque nous sommes un petit peu increvables, bien sûr, mon cher collègue Ousmane.
Bien sûr, donc comment ça s'appelle, l'épidémie, le virus oblige, donc voilà, on s'adapte, on est comme toute la société, on fait ce qu'on doit faire.
Et nous, quand on se déconfine, on y va à fond, bien sûr. Allez.
On rattrape le temps perdu.
Salut, chers auditeurs, et à demain.